Le Café Crème Sport en podcast. Actualité, analyse, débrief, le CCS, c'est le média qui vous permet de comprendre le sport. Football, sport américain, rugby, tennis, sport mécanique, divers ou de combat, vous l'aurez compris, tous les sports sont à l'honneur au CCS.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de The Legacy. On rappelle le concept pour ceux qui ne le connaissent pas encore, une plongée au cœur de l'histoire de la Grande Ligue avec des focus sur des joueurs, des équipes ou des événements particuliers qui ont marqué la NBA. Aujourd'hui, on retourne en 2007 et on s'intéresse à un trophée qui parle à beaucoup de Français qui nous écoutent. C'est le titre de MVP des finales d'un certain Tony Parker. Et je crois pas me tromper en disant que ça a marqué celui qui m'accompagnera durant cette demi-heure. Salut Clément.
Salut Thomas, ravi d'être avec toi pour parler de ce grand Tony P en finale.
Ah bah magnifique, et puis on a des souvenirs parce que on a un certain âge, donc on y était, on l'a vécu quoi. La table est dressée, il nous reste plus qu'à déguster le repas, donc sans plus attendre, montez dans la DeLorean, éteignez les Game Boy, préparez les magnétoscopes, on est ensemble pour une trentaine de minutes, c'est The Legacy, épisode 2.
Well, click, click, get ready for your Kodak moment. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied.
No, if you don't like that, you don't like NBA basketball.
Comme on le disait, Clément, Tony Parker, il arrive en NBA. Il était au Paris Basket Racing, donc en France, il jouait déjà avec les professionnels, il était tout jeune, il impressionnait pas mal de monde, et en 2001, il se fait drafter en 28e position, donc par les Spurs. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu son arrivée dans cette équipe des Spurs, justement, comment ça s'est passé pour lui l'intégration? On sait que ça a été un petit peu difficile à son arrivée, en particulier avec Tim Duncan, qui est pas le plus explicite des coéquipiers.
Il arrive en fait en NBA, il est tout jeune, donc 19 ans comme tu l'as dit. Forcément, il est un peu timoré, il a beaucoup de choses à prouver. C'est un étranger aussi, on sait que c'est particulièrement difficile, un peu moins maintenant effectivement, mais c'est particulièrement difficile pour les étrangers de s'intégrer. Même si lui il a des origines quand même états-uniennes. Bon, voilà. Après, Tim Duncan, on le connaît, hein, voilà, très taiseux, parle pas beaucoup, pas très expressif. Donc, Greg Popovich, qui est la tête de cette équipe aussi, c'est un peu le même profil, voilà, avec sa tête d'agent du KGB. donc voilà, les deux pas très expressifs, très proches. Une équipe qui gagnait puisqu'ils ont un titre quelque temps avant. Donc voilà, Tim Duncan, tout simplement, je pense pas que c'était une volonté de pas vraiment lui parler, mais il lui parle pas pendant un an. Et je pense qu'il était dans l'observation et il attendait de voir un peu ce qu'avait dans le ventre Tony Parker. Et je crois que le déclic se fait lors d'une série de playoffs contre les Sonics et face, et donc l'affrontement entre Gary Payton et Tony Parker et cette victoire dans cette série va donner des arguments pour Tony Parker et Tim Duncan, et c'est là où va commencer l'intégration en fait, voilà. Et après quand même sur cette première année il joue beaucoup, la concurrence est pas trop là, c'est le vieillissant Terry Porter qui est là mais qui démarre pas beaucoup de matchs, donc en gros on lui fait quand même confiance dans les faits, mais après il manquait plus qu'à s'intégrer à la famille San Antonio Spurs.
Ouais, et puis il y a tout le côté entraînement, donc tout ce qu'on voit pas, et c'est Popovich qui disait ça, c'est dès qu'il a vu arriver en fait Tony Parker, il a dit mais en fait il est trop fort, ça doit être lui, c'est lui, ça y est, on a notre meneur pour 10 ans en fait. Donc
ouais,
ça, pour une franchise, c'est hyper important.
Et oui, il cherchait. En plus, c'est un peu le joueur qu'il cherchait. Il voulait changer un peu de dimension, changer un petit peu leur jeu, je pense. Et c'est vraiment le profil qu'ils avaient scouté, quoi. Et puis on connaît, c'est une pépite, hein, Tony Parker. Et je pense que tout le monde l'avait un peu vu, en tout cas en France, et Greg Popovich aussi.
Oui, mais finalement, il est sélectionné qu'en fin de premier tour. Parce que effectivement, on en parlait en off, il y a ce côté, je suis un Européen, et on sait que, comme tu disais à cette époque, bah pour les Européens, c'était forcément plus difficile de faire sa place. D'ailleurs, il y a trois Européens qui ont marqué, on va dire, l'histoire de la NBA à cette époque-là, c'est Tony Parker, Dirk Nowitzki et Pau Gasol. Donc ça montre vraiment le potentiel qu'avait Tony Parker, et il arrive dans une équipe où effectivement tout est bien en place, RC Buford, Greg Popovich, Tim Duncan, David Robinson, vraiment tout est fait pour qu'il s'intègre bien en fait, dans le jeu en tout cas, parce que c'est vrai que c'était un peu plus compliqué sinon, mais dans le jeu en tout cas tout est fait pour qu'il s'intègre bien. Et donc on va en venir à cette série qui nous intéresse, parce que c'est Playoff 2007, mais juste pour remettre un petit peu dans le contexte, en 2006 c'est le Heat qui est champion. Donc le Heat de Dwayne Wade et Shaquille O'Neal, qui gagne face aux Mavs de Dirk Nowitzki, 4-3 en finale, si je dis pas de bêtises. L'année suivante, enfin en 2006, pardon, les Spurs, eux, ils se font sortir par les Mavs, alors qu'ils étaient leaders en saison régulière. Donc ils arrivent en 2007 avec cet esprit un petit peu revanchard de se dire, attends, on s'est fait sortir l'année d'avant, cette année, il faut qu'on y aille, on a l'équipe pour, on a tout pour. Et en 2007, il va se passer... exactement l'inverse de la saison précédente, c'est-à-dire que Dallas va dominer la saison régulière, mais en play-off, ça va pas se passer du tout comme prévu pour les Mavs, on peut peut-être l'aborder très brièvement, ils vont perdre, il y a une équipe qui va réaliser un des plus grands upsets de l'histoire, le fameux We Believe 2007 des Golden State Warriors. Comment toi t'as vécu ce truc-là, parce que c'est vrai que c'était fou, un huitième qui sort un premier de conf.
Bah ça remonte à un petit peu de temps maintenant, mais moi c'est une série qui m'a marqué quand même. Bon ben voilà, c'est un upset incroyable, le 8 contre le 1, c'est la première fois de l'histoire. Donc c'est quand même énorme. J'adorais cette équipe de We Believe, voilà, avec que des guerriers, Stephen Jackson, Baron Davis, voilà, et
Matt Barnes,
quoi, voilà, ça sentait les playoffs, c'était une équipe taillée pour les playoffs, voilà. Alors après, sur cette série, bah c'est la défaite, une grosse défaite de Dirk Nowitzki, c'est un échec pour lui, hein. Il fait une série catastrophique, voilà. Il tourne bien en dessous de ses standards. Il est à 19 points, il est à 21% à 3 points, 21% à 3 points. C'est cette année-là, il faut le rappeler, où il intègre quand même le club des 50-40-90. Donc pour voir l'efficacité justement de cette défense de We Believe, ce jeu aussi assez flashy avec un Baron Davis énorme sur cette série.
Ah, ça courait pas mal.
Ouais, ça courait énormément, voilà, c'est
Mike
ça.
Mike Petrus qui joue pivot quand même, hein, sur la série, c'est quand même.
Il y a pas de grand, hein, d'ailleurs.
Invraisemblable.
Je me trompe peut-être, mais c'est pas Don Nelson qui est coach. Et donc voilà, c'est quand même un coach assez mythique, et justement pour ça, il avait des tactiques vraiment novatrices, et notamment à cette époque-là, une équipe aussi petite qui courait dans tous les sens. C'était pas trop le thème de ces années-là, puisqu'on était avec les grands baobabs dans la raquette, etc. Shaquille O'Neal, Tim Duncan, etc. Pour revenir sur la série démarre très mal, une première défaite lors du premier match avec une masterclass de Baron Davis, quasiment en triple-double, et ça enchaîne, il y a une petite victoire des Mavs, mais ça enchaîne, et je crois que le dernier match, je me souviens plus exactement, mais c'est une fessée, je me demande s'il n'y a pas 20-30 points d'écart, quoi.
Ah non, mais c'était impressionnant, je m'en rappelle très bien de cette série, c'est vrai que c'était fou. Le Game 6, effectivement, c'est 111-86, donc il y a quasiment
20 points
d'écart. C'est phénoménal, 25 points d'écart, c'est juste ouf. Forcément, ça libère un petit peu de place pour les Spurs, qui se retrouvent dans une partie de tableau, on va dire, un peu plus dégagée. C'est vrai que les Mavs étaient censés être leur opposant principal, et finalement, ils vont se défaire des Nuggets, ils vont se défaire des Suns, et je vais m'arrêter sur cette série face aux Suns, parce que c'est une série qui a été aussi incroyable. Les Suns, tu peux nous en parler, c'était une équipe qui était aussi taillée pour aller loin, quoi.
Ah ouais, c'est une série dont je me rappelle très bien aussi, je me rappelle me lever dans la nuit et tout quand j'étais gamin pour regarder cette série, ces deux équipes que j'aimais beaucoup, et c'est une série très controversée, c'était très très chaud. Alors après, tu disais chemin un peu plus dégagé. C'est vrai que moi, je me rappelle quand même que cette équipe des Suns, je me disais, c'était pas gagné, quoi, pour les Spurs.
Ah non, clairement, oui.
c'était pas gagné, même s'ils étaient sur une dynamique de fou, les Spurs, c'était vraiment pas gagné. Il y avait justement l'affrontement Steve Nash, MVP, et on attendait justement la confrontation avec Tony Parker. Et c'est une série qui va vraiment prendre de l'ampleur au match 4 et 5. Match 4 et 5, et notamment avec cette anecdote, et je pense que c'est le tournant de la série, c'est-à-dire Horry et Dio et Stoudemire qui s'embrouillent, quoi, et finalement ils se lèvent du banc, ils se font suspendre, les trois joueurs se font suspendre, mais ça donne forcément Boris Dio à cette époque-là. Et Stoudemire, on n'en parle même pas. C'est deux éléments clés de ces Phoenix Suns de l'époque, et je pense que c'est un gros tournant dans la série, quoi.
Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que l'armada de Phoenix, elle est impressionnante. Il y a Sean Marion aussi, il y a Rajabel dont on parle peu, mais qui est un soldat incroyable. Moi, j'adorais Rajabel. Et il y a un autre joueur aussi que j'adore en sortie de banc pour Tony Parker. Il a du taf quand même, qui peut jouer meneur ou qui peut jouer poste 2. C'est le fameux Leandro Barbosa. Donc il y a quand même de quoi faire, et c'est vrai qu'on attendait Tony Parker au tournant pour voir comment il allait gérer cette série. Lui, au cours de cette saison, Tony Parker, il en est où personnellement, à titre personnel? Il a vécu une saison quand même qui a été plutôt correcte lui aussi. Il est All-Star. Il tourne à plus de 18, presque 19 points de moyenne, on va dire. Presque 6 passes, c'est un truc invraisemblable. Il est à l'apogée de sa carrière, il marche sur l'eau. Tout bonnement, il marche sur l'eau. Et donc, ces matchs références-là ne font que conforter l'idée qui est en train de se faire la NBA de Tony Parker, comme quoi c'est un des top meneurs, en fait, de la ligue, et que ça va pas changer, en fait.
Ouais, c'est ça. Il avait quelques accomplissements auparavant, hein, mais voilà, donc là on est 4-5 ans après, 6 ans plutôt après son arrivée, et ça y est, là il commence à s'installer comme un des meilleurs meneurs de la ligue. Donc ses stats, par exemple, en points sont pas extraordinaires, mais on sait ce que c'est que le Spurs basketball, on sait que voilà, la gonfle tourne pas mal, donc forcément les responsabilités sont partagées, donc c'est un peu pour ça que ses stats sont pas des stats immenses, mais c'est là où il a commencé à devenir un modèle pour les futurs joueurs qu'on verra plus tard, style Chris Paul, etc., qui l'ont pris en exemple, quoi.
Et c'est surtout qu'il devient meilleur en playoff, et ça, c'est la marque des grands. Donc il augmente son terme de points et son impact, surtout dans le jeu, il augmente en playoff.
Si le sujet vous a plu ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance.
Donc comme on disait, ils se débarrassent donc des Suns 4-2 après une série qui est quand même à couteau tiré, et ils se retrouvent donc en finale de conf face à une équipe qui, pour moi en tout cas, que je trouve effectivement moins forte sur le papier, c'est le Jazz d'Utah.
Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, ça sera plutôt une formalité, hein, cette finale de conférence, hein, donc puisque c'est une victoire 4-1.
Oui, sans problème.
Voilà, et c'est là où on voit que justement l'absence des Mavs et cette demi-finale, je pense que c'était un peu la finale de conférence avant l'heure. Donc voilà, c'est une formalité, ils arrivent en finale assez facilement.
Voilà, donc au moment de cette finale, tout se passe très bien pour les Spurs, et de l'autre côté, j'allais dire à contrario, mais pas forcément à contrario, il y a un joueur qui est en train de faire étalage de toutes ses qualités dans la grande ligue et qui est en train de juste de marcher sur tout le monde, c'est un fameux LeBron James. Ça s'est passé comment pour les Cavs et les playoffs? Parce que c'est vrai que quand ils se présentent en finale, ils sont pas favoris clairement face aux Spurs, mais ils ont vécu des playoffs en dents de scie, parce que c'est vrai que LeBron James, en fait, il attise tous les regards, tout le monde ne voit que lui, et l'équipe en fait est assez faible autour de lui.
Ah ouais, c'est assez incroyable, mais bon, un joueur, on le verra par la suite, voilà, avec sa carrière immense, mais à lui seul, il suffit de toute façon à faire changer le visage d'une équipe, hein. Je crois que de toute façon il le refera aussi un peu avec les Cavaliers un peu plus tard, même si le supporting cast était quand même un peu plus cohérent que là,
un petit peu plus,
oui effectivement, mais je pensais plutôt aux années après, bon on va pas revenir dessus, mais aux années où les dernières années, la dernière notamment avec Cleveland, où là c'était un peu plus faible. Non, là voilà, c'est le seul gros joueur de son équipe. Moi je pense quand même à Larry Hughes, qui était un gros défenseur et un joueur cohérent. Mais après,
il doit avoir une sélection All Defensive Team, d'ailleurs, je pense, Larry Hughes.
Je pense. Peut-être une sélection All-Star aussi, je me demande.
Non, je pense pas. Larry Hughes, non. Je suis pas sûr. Non, je pense pas. Mais c'est sûr qu'il est All Defensive Team, ça j'en suis certain. Maintenant, All-Star, non, je pense pas.
Ouais, bon, on a déjà vu pire, c'est pour ça. Hein. Donc, je sais pas exactement, j'ai pas vérifié, mais voilà. Et le grand pivot quand même, Igoskas, quand même, avec des mains en or, qui était pas beau à voir jouer dans ses déplacements, mais alors quelle qualité avec ses mains, ses petits shoots. Donc voilà, mais ça se limitait un peu à ça. Après, c'était assez vieillissant. Il y avait un Eric Snow à la main qui était pas terrible.
D'ailleurs, qui joue quasiment pas au début.
Ouais, qui joue pas. Et au final, c'est des playoffs qui vont tourner autour de LeBron James, quoi.
Ouais, c'est ça. Il catalyse vraiment tout le jeu de son équipe. C'est vrai que sur Parker, en fait, ils envoient. Il y a Sacha Pavlovic qui est là, Drew Gooden. Donc il y a des joueurs. Mais en face, quand on voit l'équipe des Spurs avec Ginobili, Duncan, Parker, Bruce Bowen, Michael Finley, Oberto. Donc Elson aussi qui sort du banc. Il y a des sacrés joueurs et en fait, j'ai envie de dire, il y a presque une académie de jeu qui fait que quoi qu'il arrive, ils sont favoris en fait.
C'est ça. Alors on l'a brièvement abordé. Cette saison, elle a été compliquée. Tu l'as dit, notamment par rapport à la saison précédente. Bon, compliqué, c'est toujours à prendre avec parcimonie, puisqu'ils font quand même un bilan de 58-24. Mais il y a un moment, justement, tu parles de Michael Finley, de tous ces joueurs qui apportaient derrière Roberto Ri aussi, je pense. Et en fait, il y a un moment de transition dans cette année, c'est qu'à la trade deadline, RC Buford et Popovic se posent vraiment la question, est-ce qu'il faut qu'on change quelque chose? Voilà. Et justement, ils prennent la décision de rien changer, de garder cette famille unie, cette famille Spurs unie, et garder justement pour pas dénaturer leur philosophie de jeu, ce jeu de rien toucher. Et c'est là où, après post All-Star Game, finalement c'est la meilleure équipe de la ligue, donc c'est là où ils reviennent un peu dans la course et dans une dynamique parfaite pour les playoffs, quoi.
Ouais, c'est ça. Et donc forcément, on va passer maintenant à l'opposition en elle-même. Il y a pas de surprise sur le, on va pas faire match par match, mais en gros, LeBron James porte son équipe, arrive à la ramener à chaque fois. Moi, j'ai souvenir qu'en match 2, il se fait exclure à un moment très tôt. Enfin, il se fait exclure. Il se fait bencher, pardon, parce qu'il a deux fautes dans le premier quart-temps et ça correspond avec le moment où Cleveland prend un écart. Et en fait, pour revenir vraiment à Tony Parker, c'est là qu'on voit que ce match-là est fait pour lui. Il a une opposition en face, Larry Hughes. Il peut pas l'arrêter, hein, malgré le fait que ce soit un bon défenseur. Tony Parker, il va tellement vite sur cette série. Il est inarrêtable. Ils envoient ensuite Gibson aussi pour mettre un petit peu de shoot et peut-être perturber un peu Tony Parker, qui est pas le meilleur défenseur de la ligue. Ça change rien du tout. Tony Parker, il mange tout le monde. Peu importe qui tu lui mets, à un moment, ils envoient même LeBron James défendre sur lui. Ça change rien non plus. Donc, c'est vraiment Tony Parker. C'est la série de Tony Parker. C'est sa série. Tim Duncan, il est bon. Mais on voit que Tony Parker. Visuellement, l'impression, elle est impressionnante.
Ah ouais, c'est impressionnant. Comme tu l'as dit, voilà, il est à son apogée, sa vitesse, son jeu en transition. Il était inarrêtable. Et je pense qu'ils avaient... Ils n'avaient pas de kryptonite à lui envoyer aussi du côté de Cleveland. C'était très compliqué de trouver. Je pense que Larry Hughes manque deux matchs aussi de ses finales. Ouais. Donc voilà, c'était compliqué. Effectivement, ils envoient Gibson sur lui, mais voilà, ils n'avaient pas trouvé la clé. Et effectivement, ce match 2, qui est pour moi le tournant de cette série, puisque je pense qu'il rentre au vestiaire avec un coup de massue énorme sur la tête. Je crois qu'il y a 29 points d'écart, donc effectivement, quand LeBron James est benché, et après, donc ils reviennent, ils font un retour, mais voilà, c'est 33 points, je crois, pour Tony Tony Parker, c'est un match où Santonio se dit, Santonio, Cleveland, pardon, on va pas y arriver, quoi. On va pas y arriver.
Bah non, mais clairement, clairement, ils peuvent pas y arriver. Et puis moi, ce qui m'a impressionné, je t'avoue, sur cette série, c'est de voir en fait à quel point le Spurs basketball est au point. C'est-à-dire que dans les moments où on voit Cleveland qui essaye d'enflammer un peu le match, qui revient un petit peu au score, pop, il calme tout le monde et on revoit des systèmes basiques. Tony Parker, il prend un écran, il se met poste haut. Tim Duncan, il prend la position en bas. Tiens, voilà le ballon. Dos au cercle et débrouille-toi. On remet du jeu Spurs basketball. Ballon bas pour Tim Duncan. Et après, lui, il voit soit il kick out, soit il ressort. Tony Parker, il va driver. Voilà, des choses simples, mais tellement efficaces. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle Big Fundamental, hein, Tim Duncan, hein, c'est qu'il sait faire ça à la perfection. Et Pop, il a optimisé les compétences de ses joueurs et les qualités de ses joueurs au maximum. Ginobili, pareil, il arrive à sortir du banc et à mettre des scores aussi. Donc c'est vraiment efficace. Il y a tout qui fonctionne, tout est bien huilé, tout est parfait. Et moi, je suis impressionné. Je me suis refait les matchs 1 et 2 par curiosité pour voir comment c'était. Et en fait, ouais, tu ne vois que les Spurs. Le pauvre LeBron James, il est en difficulté, il a pas d'aide.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment le début pour moi. Enfin, c'est ces finales-là qui amènent la deuxième partie de domination des Spurs. Même s'il y aura une période de disette, on retrouvera ce magnifique Spurs basketball en 2014. Mais voilà, c'est vraiment là où ça se met en place. On commence à voir le ballon qui tourne. C'est des extra passes plus extra passes. Voilà, comme tu dis, la maîtrise aussi. C'est-à-dire que dès que Cleveland revenait, parce que LeBron James a quand même fait des matchs corrects et il a réussi à ramener son équipe. Souvent, je vois très bien un match aussi où, notamment au match 4, où alors que le début est difficile, il repasse devant à 61-60. Mais là, c'est là où justement, c'est ce que tu disais. Voilà, on remet en place un basket léché, balle au poste, ça tourne autour de Tim Duncan. Non, enfin, c'est impressionnant de maîtrise surtout. Et ça commence à, voilà, c'est ce que je voulais dire, à changer un peu d'optique de jeu par rapport notamment au final 99 et 2003, où on était moins dans ce Spurs basketball, on était plus sur un basket des années 2000, plus rugueux. Donc c'est vraiment là où on voit la puissance des Spurs qu'on va voir ensuite sur 10 ans, quoi.
C'était aussi ce style de jeu, ça correspond aussi au fait qu'il y ait un David Robinson à l'intérieur qui effectivement était un joueur incroyable. On rappelle qu'il a quand même un quadruple double, que c'était un défenseur extraordinaire, un attaquant extraordinaire, un joueur extraordinaire et un homme non moins extraordinaire. Donc ouais, c'est ça. Et donc on en vient forcément à la récompense en elle-même. Arrive ce dernier match, Tony Parker continue de marcher sur l'eau. Et est-ce que selon toi il y a débat dans ce trophée de MVP des finales quand il est décerné? Est-ce que pour toi tu peux te dire Tim Duncan l'aurait mérité, parce qu'en vrai c'est Tim Duncan ou Tony Parker, hein, c'est tout, ou est-ce que vraiment il y a pas photo, en fait Tony Parker il a trop dominé?
Non, pour moi il n'y a pas photo, il le mérite amplement. On n'est pas du tout sur du Iguodala ou sur du Kawhi, hein, un peu plus tard, hein.
D'ailleurs Tony Parker aurait dû l'avoir, je dis ça. Je dis rien.
Oui, c'est bon. En tout cas, il y a un débat qui peut s'installer. Après, c'est une récompense individuelle, donc c'est toujours, ça amène toujours des débats de toute façon. Mais là, pour moi, c'est flagrant, c'est-à-dire que comptablement, au niveau des scores, c'est le meilleur marqueur de la série du côté Spurs. Je crois qu'il tourne à 24 points de moyenne, il fait une pointe à 30 et quelques points, et surtout il est décisif, c'est-à-dire qu'il est dans le match 3, je sais pas si tu te rappelles de ce tir, mais il reste 5 secondes à jouer, il met un 3 points qui assomme en match 3, donc à Cleveland, hein, parce qu'on est de retour à Cleveland, qui assomme les Cavs, et 75-72, et le match se termine là-dessus. Donc c'est, on n'est pas sur un buzzer beater, mais pas loin, quoi.
C'est le match où il a le moins de responsabilités, en tout cas où il a été le moins productif en termes de points. Donc c'est ça qui est fou, et c'est là qu'on voit que c'est la force des grands joueurs. C'est, t'as pas besoin d'être hyper flashy pendant tout le match, mais au moment clé, par contre, tu sais être là. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qui lui permet d'avoir cette récompense.
J'ai envie qu'on... un match tellement bizarre, le match 3. Je crois que les trois joueurs principaux, ils sont à 14 points. Donc, c'est assez incroyable et c'est quand même une victoire à la fin. Bon, on est sur des matchs, on est sur un basket, un autre basket que maintenant, c'est 75, 72, 80 points. Enfin, voilà.
Ah c'est... Les Spurs, c'est 20 secondes de possession minimum. Hein.
C'est
la possession est longue, le jeu est bien en place, les systèmes sont bien définis. C'est vrai, c'est le Spurs basketball. Donc c'est pas eux qui vont courir. Et en même temps, ils avaient pas non plus intérêt. Pourtant, ils avaient des joueurs qui sont capables de courir, mais ils étaient tellement forts sur demi terrain que ça suffit. En fait, ils imposent leurs pattes et point barre.
À chaque fois que Tony Parker, justement, parce que lui c'est quand même son jeu, le jeu de la transition, etc., et la vitesse, et à chaque fois qu'il tente une transition et que le panier est loupé, il regarde pas le banc parce qu'il sait qu'il se fait toiser du regard par Popovic qui voulait qu'on garde le ballon au maximum, qu'on mette en place des systèmes et donc c'était pas trop son basket, donc c'est des petits scores, mais voilà, comme tu dis, il est décisif dans un match qui est pas forcément son meilleur match. Après, il y a ces deux matchs pour revenir sur sa performance. Le match 4, quand même, c'est, moi, j'ai regardé, c'est une masterclass. Enfin, je veux dire, techniquement, je sais plus quel défenseur il fait tomber sur un espèce d'eurostep, un peu bizarre, pas vraiment un eurostep, mais pas loin. Il fait tomber un joueur, il va au panier derrière. Enfin, techniquement, c'est magnifique, c'est un récital. Et le match 2, on en a déjà parlé, effectivement, c'est pareil, quoi. Un festival de technique, de vitesse, même d'adresse. Ouais, donc, ouais. Donc voilà. Non, pour moi, il n'y a pas débat sur ce MVP.
Oui, moi je vais juste revenir sur ce que tu disais. Effectivement, ils regardent pas le banc, Pop et tout. Faut savoir que leur relation, elle était très fusionnelle. Hein, ils étaient très très proches. Mais faut aussi savoir, pour ceux qui font pas forcément de basket ou qui connaissent pas forcément les rouages du basket, c'est que le meneur, généralement, c'est le relais du coach, parce que c'est lui qui met en place les systèmes, c'est lui qui les annonce. Et souvent, bien évidemment, il a une relation étroite avec le coach, parce que justement, ce sont deux, c'est le coach sur le terrain, le meneur. Donc, c'est vraiment important qu'il soit en totale osmose, le coach et le meneur. Donc ça, c'est important de le préciser. Donc, je vais conclure sur un dernier petit point très important pour moi, c'est l'héritage que cette performance a laissé. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour nous Français en particulier, mais pour les Européens, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors pour nous Français, c'est tout bonnement nouveau, hein, on ne connaissait pas ça et on commence à y prendre goût, hein, j'avoue, ces performances. Aujourd'hui, on a énormément de joueurs en NBA, c'était pas le cas à l'époque. Et toi, comment t'as vécu cette chose-là en tant que jeune garçon, du coup, qui découvre la balle orange, qui découvre la NBA et qui se prend à rêver devant un meneur français qui est en train de défoncer tous les Américains.
Ouais, c'est ça, c'est un peu une anomalie, voilà, dans l'histoire NBA. C'est le début d'une nouvelle ère, en fait, NBA. La NBA qui s'ouvre et, il y a un petit Français qui vient et qui, en plus d'être bon, en plus d'être régulier, va aller choper une distinction individuelle mythique, quand même, parce que MVP des finales, si on dresse la liste à quelques exceptions près, il y a que du lourd, quoi. Donc, ouais. Donc voilà, et c'est son héritage va être fabuleux, notamment en France et en Europe. Et quand on met en perspective un peu avec ce qui se passe maintenant, et quand on voit que des Nikola Jokic sont MVP, que des Giannis Antetokounmpo sont MVP, tout ça prend du sens et montre le poids qu'il a eu dans l'histoire du basket européen et la liaison entre ces deux baskets. Hein.
Voilà. Oui, et puis moi, ce que j'aime avec Tony Parker, c'est qu'aujourd'hui, on voit... Il est toujours concerné niveau basket avec le club de l'ASVEL, donc dont il est président, section homme comme section femme, qui tourne très très bien. Il ouvre des académies, c'est quelqu'un qui aime transmettre, et je pense que au-delà du basketteur, vraiment c'est une personne qui a servi le sport français dans sa globalité, le sport même mondial dans sa globalité, je pense.
Ah oui, on est sur un des plus grands ambassadeurs du sport français, hein. Je veux dire, la NBA, ce que ça représente maintenant économiquement, culturellement, c'est énorme, et voilà, ça a été un des fers de lance de cette ligue pendant des années, avec une des plus grandes équipes de l'histoire, donc c'est son héritage. Et en plus, moi je voulais rajouter, en plus c'est un joueur qui est toujours resté en lien avec l'Europe, puisqu'il venait à chaque fois avec l'équipe de France aussi. Donc ça a permis aussi de maintenir ce lien. Ça aurait pu être un joueur ça aurait pu être un joueur qui soit plus américain en fait que français. Et en fait, le fait qu'il arrache des titres, parce que ça a été à l'arracher pour avoir des titres avec l'équipe de France, tout ça, ça a fait que ce lien s'est renforcé avec le temps.
Bah c'est ça, il a jamais raté un été, il a toujours été là. Et moi, ce qui me marque, là où tu vois que c'est un joueur qui a marqué le monde du basket et de la NBA, c'est la réaction lorsqu'il signe au Charlotte Hornets. Alors moi, c'était un crève-cœur hein, de le voir quitter les Spurs pour signer aux Charlotte Hornets, mais c'est la réaction de Malik Monk, je crois.
Ah ouais.
Je crois que c'est Malik Monk quand Tony Parker signe et qu'il l'apprend alors qu'il est en interview.
Ah, c'est
juste, c'est juste fabuleux. Et là, tu te dis, ok, la legacy du gars, c'est ça. Ok, c'est bon, on a compris.
C'est ça. Elle se limite pas à la France, aux États-Unis ou à l'Europe. C'est vraiment mondial, comme tu l'as dit. Voilà, c'est-à-dire que voilà, il a mis sur les tablettes avec d'autres. Évidemment, il n'est pas le seul. Hein. On a parlé pour Gasol, Dirk Nowitzki. Voilà, mais il a mis sur le basket européen et en même temps, même aux États-Unis, bah, c'est une référence. En Europe, c'est une référence et en France, on n'en parle pas. Hein. Donc voilà, il a lancé toute une vague de joueurs français. Je crois que maintenant, on est à 13 joueurs français, un des plus gros contingents étrangers en NBA. Donc, il a ouvert la porte aussi, c'est ça aussi son héritage, il a ouvert la porte pour les autres, quoi.
Bah, c'est ça. Bon, bah, je pense qu'on peut refermer le livre sur cette magnifique récompense de MVP des finales de Tony Parker et en même temps sur sa carrière, parce que c'est vrai qu'on peut pas ne pas l'aborder, sa carrière qui a été exceptionnelle, et le remercier tout simplement pour tout ce qu'il a fait pour le basket français, même pour la visibilité des médias que nous sommes pour le basket en France. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir, Clément, d'aborder Tony Parker, d'aborder les Spurs, d'aborder cette académie de jeu, d'aborder vraiment ces playoffs 2007 qui ont été marquants pour nous qui étions petits garçons et qui aujourd'hui parlons de NBA. C'est génial, franchement c'est un truc incroyable. Donc merci en tout cas, Clément, de m'avoir une nouvelle fois magnifiquement accompagné durant cette demi-heure. J'espère qu'on va pouvoir très vite reparler d'un autre moment historique de la Grande Ligue. Et puis, on se retrouve sur toutes les plateformes, hein, vous connaissez maintenant. Et le site cafécrèmesport.com, n'hésitez pas à aller visiter tous les articles qui sont faits. Omnisport, basket, NCAA, il y a de tout, faites-vous plaisir. Merci Clément.
Merci à toi.
Et à très vite. Ciao tout le monde.
Ciao.
Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.